pu noter des phénomènes qui finissaient, qui disparaissaient. Oui. J'ai noté à quelques reprises qu'il y avait la fin de la transe pour moi. Quelques moments où je revenais à la réalité. Ah, tiens, c'est fini le petit passage où j'étais absorbé dans mes considérations et passé non existant. Alors, ce matin, je parlais un petit peu du processus du développement de la concentration, comment ça fonctionne un peu. Puis toute la beauté de ça, hein, de tout à coup être protégé des états mentaux difficiles. Puis si c'était seulement que ça, ça serait déjà très bien. Mais en plus, la concentration, ça peut venir avec des états mentaux très, très beaux. Sublime, là, comme l'extase, la béatitude, la tranquillité, là, mais des états de tranquillité, là, où est-ce que c'est le calme plat là-dedans, là, où il y a vraiment, tout à coup, l'esprit devient spacieux et peut-être même lumineux, mais d'un grand, 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 grand calme, comme on a peu connu dans notre vie. Et il peut y avoir aussi sukha, une sorte de bonheur ou de joie qui est assez raffinée. Il peut y avoir de l'extase, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est des choses qui peuvent venir avec le développement de la concentration, des qualités qui sont répertoriées, là, bien, bien connues par les gens qui ont, à travers les millénaires, là, qui ont étudié le développement de la concentration. L'équanimité aussi, l'esprit d'une incroyable stabilité. Alors ça, c'est des belles choses. Ce qui est intéressant ou qui peut être étonnant, c'est qu'en fait, il y a ces choses-là qui peuvent arriver dans le développement de la concentration, mais ce n'est pas la fin du chemin. On pourrait dire, c'est assez, moi, je peux faire avec ça, ça va aller. Donnez-moi l'extase, la béatitude, la tranquillité, l'équanimité, le bonheur raffiné, ça va m'aller. J'ai pas besoin d'autre chose. Mais en fait, c'est pas du tout la fin du chemin parce que le but de la méditation, c'est pas ces états-là parce que ces états-là sont impermanents. D'ailleurs, quand on pratique intensément la concentration, au moment où on va quitter l'absorption, par exemple, si l'esprit est devenu absolument absorbé par la narine, encore une fois, ou quelque chose du genre, au moment où ça finit, les instructions, c'est toujours « sois très, très, très attentif au moment où tu sors d'un état de concentration, parce que c'est très important de voir ce truc-là se démolir, se déconstruire. » Puis, on a tous, je crois, des expériences de ce genre-là où est-ce que tout à coup l'esprit, le mental est stable, c'est calme, même si c'est relativement calme, relativement stable. Puis tout à coup, il y a une réactivité qui rentre ou tout à coup, il y a une solidification là, de « tu sais, ma journée allait bien, tout allait bien ». Quelqu'un dit quelque chose, puis tout à coup, il y a « on me dit ça à moi ». Tout à coup, il y a une solidification là, du moi, là, tu sais, qui est attaqué par une parole ou quelque chose comme ça, à quel point ça peut être douloureux. Puis donc, dans la concentration, même s'il y a l'extase, il y a la béatitude, à la fin de la période de concentration, on dit « sois très attentif parce que tu vas voir ça se déconstruire, se défaire. Il faut que tu vois ça parce que sinon... tu vas investir beaucoup trop là-dessus, tu vas penser que c'est ça, puis qu'il n'y a que ça. Il faut vraiment que tu vois que c'est des états conditionnels, contingents, que c'est quand les circonstances sont bonnes que ça existe, puis quand les circonstances changent, que tout à coup, ça disparaît. Puis c'est bon de voir ça se défaire, parce qu'on voit l'impermanence qui redevient claire. Des fois, on a cette expérience-là sur le coussin, je suis assis comme ça, je respire calmement, puis là, il y a quelqu'un qui tousse, ou quelqu'un qui se mouche, ou quelqu'un qui change de... Puis tout à coup, ça... Hop, là, j'ai perdu ma petite instable concentration. Puis c'est clair, là, tout à coup, je suis irrité, c'est déplaisant, et je tends à blâmer l'autre, pas la vie, pas le fait que les choses sont instables, mais cette personne-là à côté de moi qui bouge. Tu es la source de mes difficultés. Puis donc, on est invité à voir ça, cette décomposition-là d'un état mental, pour vraiment bien comprendre que des états mentaux, c'est des choses qui apparaissent et disparaissent. Puis là, on rentre plus dans le monde vipassana, là, du développement de la sagesse qui va être libératrice, parce qu'on va voir ça. Ah oui, je peux pas m'attacher à ça, je peux pas investir, je peux pas penser que c'est ça qui va être ma protection ultime, parce que c'est une protection pour un moment seulement, c'est momentané. Puis donc, une des choses qui m'intéresse particulièrement dans cette pratique-là, c'est donc, j'en parlais hier, je dis on développe une certaine sensibilité. Hein? On ouvre les sens un peu, on devient attentif aux sens, puis on veut faire ça d'une façon équilibrée pour ne pas être attaqué par les bombardements, on pourrait dire, à la porte des sens, hein? Mais pour pouvoir recevoir les contacts qu'on a avec la réalité d'une façon stable. Et là, le mouvement qui m'intéresse particulièrement dans la pratique de la méditation, c'est le mouvement, c'est ça, je vais décrire ça un peu à ma façon, parce que j'ai l'impression qu'on devient sensible, on travaille toujours à développer cet équilibre-là, de telle sorte qu'on peut recevoir des sensations plaisantes ou déplaisantes ou neutres, sans perdre l'équilibre, sans tomber dans « ça m'en prend plus, absolument, je ne veux pas ça », etc., de pouvoir faire « ok, tiens, ça rentre, c'est une sensation douloureuse, sensation neutre. » Et donc, on développe une sensibilité à la spécificité de ce qui se passe. Ceci est entendu, ceci est une sensation physique, ceci est une sensation physique agréable, ceci est une sensation physique désagréable. J'y pense peut-être pas de cette façon-là, mais je rencontre l'événement de cette façon-là. Ah, ça, ça pulse, ça, ça tire, ça, ça presse, ça, c'est chaud. Hein? Alors, il y a plein de spécificités aux événements. Certains événements sont évidents, d'autres sont subtils. Ah, ça, c'est un événement qui est très subtil, délicat, un peu lointain peut-être. Il y a toutes sortes il y a des choses qui sont vertes, des choses qui sont rouges. On entre en contact avec ça. Quand on marche à l'extérieur, on apprend à être sensible, sentir le poids, la légèreté, le mouvement. Puis encore une fois, peut-être qu'on n'y pense pas de cette façon-là, mais c'est l'intimité qu'on a, c'est avec ça, avec la spécificité des choses. Hein. Certains événements sont mentaux, d'autres sont physiques, certains sont émotifs. Certaines qualités. On fait un discernement aussi à un autre niveau qui est bénéfique et nuisible. Ça commence à être clair dans l'expérience elle-même. J'ai même pas besoin probablement d'y réfléchir exactement comme ça, mais ça devient clair que de baigner dans le ressentiment, c'est nuisible pour moi et pour les autres. De baigner dans la bienveillance, ça devient intuitivement, là, de façon intuitive, ça devient clair que c'est bénéfique pour moi qu'il y ait de l'équanimité ou de la bienveillance ou de la compassion, que c'est libérateur, par exemple. Alors qu'une autre façon d'utiliser la pensée ou un autre état mental est enchaînant. Je commence à sentir ça, la nature spécifique des choses. Est-ce que vous me suivez? Oui? OK. Et là, il y a un moment où tout à coup, on passe du spécifique tranquillement dans la pratique, puis ce qui devient apparent, c'est les caractéristiques universelles. Puis là, on en parle depuis le début du week-end, puis dans toute la psychologie ou la philosophie bouddhiste, on en parle beaucoup, parce que vous allez dire « Ah, ok, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. » Alors, même s'il y a des choses qui sont vues et d'autres entendues, certaines images sont mentales à l'intérieur, du domaine mental, puis d'autres du domaine physique, comme le picotement dans les orteils. Il y a des trucs donc très spécifiques à chaque phénomène. Mais les phénomènes ont tous des caractéristiques qui leur sont communes. Et là, on tombe dans le. On se met à. C'est ce qui commence à être apparent dans la pratique. Et donc, une des caractéristiques universelles des phénomènes, c'est qu'ils sont impermanents. Puis donc, on commence à s'éveiller à ça, à voir qu'il y a ça de commun dans chacun des phénomènes qui se passent. Qu'ils soient pensés, ressentis, entendus, le phénomène va passer à un moment donné. Il va y avoir une fluctuation là-dedans. Il va y avoir le passage de l'événement lui-même. Comme quand on était assis, à un moment donné, je crois que c'était à l'extérieur, on a entendu une voix d'enfant qui disait des choses. Puis là, on a entendu ça, c'est né. Cette affaire-là, c'est apparu. Il n'y avait pas de voix d'enfant tout à coup. Puis il y avait une voix d'enfant. Oh, et c'est disparu. C'était une voix, c'était spécifique, c'était une voix d'enfant. C'était entendu, puis c'était une voix d'enfant. Mais c'était la caractéristique universelle, ou une des caractéristiques universelles, c'est que c'était impermanent. Et dans la pratique, on devient très attentif à ça parce qu'on dit que c'est là où la sagesse rentre. C'est là où il va y avoir. De voir ça, c'est ce qui est libérateur. De voir que, ah, ça ne dure pas. Puis on commence à voir ça avec une pensée aussi, que la pensée ne dure pas, que la pensée tout à coup finit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, si vous voulez, soyez attentif à la fin des choses. Amenez votre intelligence et votre attention, votre curiosité vers la fin des phénomènes pour voir ça. Puis si on s'intéresse à ça, tout à coup, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont révélées que tout à coup, ah oui, il y a la fin de la respiration. C'est vrai qu'il y a la fin de la respiration. Ah, mais il y a la fin de l'inspiration aussi. Ah, mais il y a la fin du début de l'inspiration. Ce que j'appelle le début, l'initiation de l'homme. Ce truc-là, à un moment donné, c'est fini. Là, on n'est plus dans le début de l'inspiration, on est dans la fin de l'inspiration. Et puis comme ça, on peut voir aussi que le début d'une pensée passe, même avant que la pensée soit finie. La naissance de. Mais là, on se met à découper les choses un peu. Là, je commence à voir que, ah, en fait, ce que j'appelle une inspiration, c'est vraiment plusieurs moments. Ça, c'est quand l'attention devient très raffinée, on commence à voir ça, que, wow, c'est incroyable que, y a plein de petits moments isolés là-dedans qui apparaissent et qui disparaissent. Puis on dit, ce qui nous cache ça, c'est la continuité. Alors, on pense que les choses sont semblables parce qu'il y a une sorte de. Par exemple, les sensations dans vos pieds en ce moment. Il y a une telle sorte de sensation dans vos pieds. Certaines chaleurs, d'autres picotements. Il y a une certaine sensation. Puis probablement qu'il y a une sorte de continuité là-dedans. Ça picote, ça continue de picoter. Alors on peut penser que ça continue ce truc-là, mais si on devient très attentif, on va voir qu'un moment de picotement passe. Il est suivi par un moment très, très, très semblable au picotement. Puis là, oups, on perd le truc, tu sais. Et de cette façon-là, je peux encore avoir l'illusion de, à cause d'une sorte de continuité où, par exemple, je vois un ou une amie, je vois cette personne-là, c'est un événement visuel qui dure un moment. Puis là, je vais m'asseoir et je pense à mon ami. Si je ne suis pas très attentif, je vais avoir une continuité. C'est toujours mon ami. C'est mon ami, puis maintenant c'est mon ami, mais là il est rendu dans ma tête. C'est la même chose. Mais en fait, non, c'est des événements différents. L'événement visuel est passé, puis là maintenant il y a un nouvel événement. Puis il n'y a pas la continuité, c'est une illusion, là. Mais il y a un événement visuel, puis il y a un événement mental. Moi, j'associe tout ça ensemble, je mets ça comme ça. Puis là, j'ai la permanence. Vous vous souvenez qu'hier, je parlais des perversions de la. Alors, on est exactement dans le même champ. Là, ce dont je parle, ce n'est pas les perversions, mais bien l'autre pendant qui est la découverte de la nature, des caractéristiques universelles. Alors, une des caractéristiques universelles, c'est que les choses passent constamment. Puis donc, quand on fait la pratique vipassana, on se retrouve avec c'est. Continuer calmement à connaître. C'est la caractéristique universelle. CCCCUC. Caractéristique universelle du changement. Alors, du passage des choses. Alors, on va de la nature spécifique des choses. Ça, c'est lourd, le corps est lourd, le corps est léger, le cœur est lourd, le cœur est léger. Puis là, on commence à voir la caractéristique universelle du passage des choses. Puis c'est comme ça, probablement, souvent, c'est la porte d'entrée vers l'autre caractéristique. Je vais les nommer les trois, là. L'autre caractéristique que vous connaissez probablement aussi, qui est la caractéristique de l'incapacité. Je vais utiliser ma formulation à moi qui marche bien pour moi, peut-être ça va marcher bien pour vous. L'incapacité qu'ont les phénomènes de satisfaire. Étant impermanent, il n'y a donc pas la possibilité de trouver satisfaction là-dedans. Puis ça, on peut faire l'expérience directe de ça. Au passage de quelque chose, on voit que, par exemple, au passage à la fin d'un état mental, d'une plage, on pourrait dire, de calme, quand une plage de calme, puis tout à coup, après 30 secondes de plage de calme, ou une plage de calme de 17 minutes, ou de 27 minutes, tout à coup, les eaux deviennent troubles à nouveau pour une raison ou pour une autre, une pensée traverse l'esprit, un son, puis là, tout à coup, on voit, incroyable, un état mental ne pourra pas me sauver. Hein, ne pourra pas me satisfaire complètement, c'est quelque chose d'impermanent et donc qui ne peut pas se satisfaire complètement. Puis on voit, on a cette expérience-là directe. Pour moi, c'est une expérience qui doit être. Pour moi, c'est connu comme tel. C'est la méditation, c'est ce qui favorise une expérience directe. On peut savoir ça, un niveau de compréhension, là. On en met trois dans le bouddhisme au niveau de compréhension intellectuelle. Ah oui, trois caractéristiques, je peux t'en parler moi aussi. Le niveau de réflexion. Ah oui, j'ai bien pensé à ça. C'est vrai, ça s'applique dans pas mal toutes les situations de ma vie. C'est vrai que les sons ont tous passé. Je réfléchis à ça, je contemple ça. Puis rien qui remplace le troisième. Connaissance profonde de l'expérience directe avec une attention qui est raffinée, soutenue, une attention de haute qualité, on pourrait dire, une attention extraordinaire. De voir ça, quelque chose qui disparaît dans le moment, et puis donc sa nature insatisfaisante, ça, c'est connu comme étant libérateur. Là, l'illusion revient. Puis on applique l'attention à nouveau pour voir le passage des choses. Puis la dernière caractéristique, c'est la caractéristique de anatta, que c'est donc impossible de s'appeler non-soi, non-mien, non-moi. Je ne peux pas m'approprier quoi que ce soit. J'allais dire une version très très subtile de l'attachement, mais en fait, parfois c'est absolument grossier. C'est à moi! Ne touche pas. Mais on voit, puis donc ça, c'est clair là, que ça prend cette attention soutenue-là pour voir qu'il y a une appropriation, une identification, puis pour voir ça comme, ah, oh, j'ai vraiment cru que... Une façon qu'on a de briser ça, c'est de parler, entre autres, de six sortes de conscience. Alors qu'on pense peut-être que la conscience... C'est quelque chose de continu, on a cette illusion-là. Je suis conscient, je suis constamment conscient, j'étais conscient ce matin en me réveillant, toute la journée j'étais conscient. Des fois c'était pleinement conscient, des fois c'était à peu près conscient, peu conscient, mais c'était la même conscience. Puis une façon qu'on a de briser ça, c'est de parler de six sortes de conscience. Comme ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est très simple, c'est la conscience du son. La conscience de la vue, la conscience du goûter, la conscience du monde physique, là, du toucher, puis la conscience au niveau de la porte du mental. Et par exemple, quand l'enfant passait tout à l'heure, si vous l'avez entendu, là, est-ce que c'est possible d'avoir la conscience du son de l'enfant qui parle? En dehors de l'enfant qui parle. Cette conscience-là d'un son et de ce son spécifique-là, on dit, naît avec le son et meurt avec le son. Si en ce moment vous dites, non, je peux me remémorer, je peux revenir à cette conscience-là, ça, il y a une apparence là, de continuité, que c'est la même chose, mais c'est pas vrai. C'est un événement mental qui est fabriqué, une production d'un événement mental. Alors, je peux avoir une conscience d'un certain son d'un enfant qui passe, mais c'est à l'intérieur de soi. Ce moment-là est né avec. Alors, je ne peux pas m'approprier ça. Comment est-ce que je pourrais vraiment m'approprier ça? Je peux dire qu'il y avait vraiment de la conscience. Il y a vraiment eu un son d'un enfant qui parle. Il était là, il était connu, c'était reçu. Il n'y avait pas juste le son lui-même, il y avait l'intelligence ou la réception de ça. Mais cette affaire-là, c'est né, c'est mort en même temps que le son. Ce que je trouve beau là-dedans, quand je pratique de cette façon-là, en voyant que, ah, par exemple, la conscience du pied en ce moment que vous avez, elle est née probablement au moment où j'ai dit le mot pied. Elle n'était pas exactement là avant. Il n'y avait pas cette conscience-là. Et puis, hop, après ça, elle est peut-être encore là, mais c'est plus vacillant, là. Alors, c'est un truc qui. Ce que moi me touche là-dedans, dans ce truc-là, c'est que j'ai l'impression de toucher à la mort, mais d'une façon qui est douce. Je vois que j'ai une expérience, le moment de l'enfant est passé. Cette conscience-là, elle est née, elle a vécu, puis maintenant elle est non existante. Ça me semble assez naturel. Je peux m'habituer tranquillement à ça. Ah, wow, ce moment-là est né, est mort, est passé. L'exemple que les profs de méditation donnent toujours, c'est essayer d'avoir la conscience du son de la cloche là, maintenant, avant le son. Essayer de voir quand est-ce que la conscience du son va naître et mourir. Arrêter la conscience du son. Alors la conscience de ce son-là naît avec le son. Donc non seulement elle est impermanente, mais c'est aussi un événement qui est conditionnel. Ça prend la cloche. Alors, de cette façon-là, nous, on se voit comme des êtres séparés. Je suis conscience, c'est ma conscience perdure. Puis, tout à coup, on se met à être attentif, puis on voit que, ah, ces événements-là sont, je sais pas si c'est poreux le bon mot, mais c'est un échange, c'est inter-être, je sais pas comment on parlerait de ça, là, parce qu'il y a un vocabulaire qui existe pour ça. Mais on découvre qu'on est dans le monde, on est dans à même le monde, on est. Puis donc, dans notre attention, on passe d'une attention à la spécificité des choses, j'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable, c'est neutre, à c'est impermanent, c'est contingent, c'est dépendant d'autres choses, alors ça peut pas être. C'est pas exactement moi. Cette ligne-là de séparation arbitraire que je tire entre moi et pas moi, je découvre que c'est une ligne un peu arbitraire, en fait. Que c'est pas absolument vrai. Que c'est conventionnellement vrai. Mais que, en fait, je fais partie de l'univers. Mais c'est pas une notion intellectuelle, ça devient une notion ressentie. Ah oui, je suis. Dans l'univers. Je ne sais pas si le je s'applique même, mais voici l'univers, tu sais. Alors, dans un sens, dans la pratique, une façon que j'ai aussi, j'aime penser à ça de cette façon-là, c'est que j'enlève mes lunettes habituelles pour mettre les lunettes du dharma. Quand j'ai mes lunettes habituelles, c'est ce que Pascal veut, ce que Pascal voudrait, ce que Pascal en pense, ce que Pascal Par rapport à Pascal, Pascal est... J'espère que ce n'est pas votre cas parce que... mais la référence ultime, c'est Pascal. Pascal est d'accord, pas d'accord. Pascal, lui, c'est différent. Pascal aimerait bien mieux être comme ça. Pascal, c'est le truc de mesure, c'est Pascal. Puis donc, ça, c'est les lunettes habituelles. Puis là, je suis invité à déposer ces lunettes-là. Puis là, mettre les lunettes du Dharma. Puis là, tout à coup, c'est pas tellement Pascal, c'est les caractéristiques, par exemple, qui vont devenir plus évidentes. C'est, ah, ça c'est... Il y a la naissance de cet événement-là, puis il y a la mort de cet événement-là. Il y a la présence de ça, puis les caractéristiques spécifiques aussi. Ah, ça, c'est un état mental. C'est pas tellement « je veux absolument obtenir ça », c'est « ah, ça, c'est un état mental difficile ». Ça, c'est une version dharmique du même événement, tu sais. Au lieu d'être pris dans « je veux absolument ça, je veux me débarrasser de ça », c'est « ah, là, il y a un rapport difficile, conflictuel à un événement présent ». Alors, ça, c'est un peu les lunettes du dharma. Mais par rapport à la dernière caractéristique, excusez-moi, c'est là où je voulais en venir, parce que je voulais vous lire un petit truc que j'aime bien. Si je peux me rappeler de mon code, mon code me donnant accès à ma sagesse. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Bahia? Bahia. Ça, c'est un des plus beaux discours. Dans les textes. Et il y a un enseignement là, qui est vraiment essentiel, qui est extrêmement simple, mais qui pointe vraiment vers d'une façon profonde vers cette troisième caractéristique-là, là, de ne pas s'accaparer, s'identifier aux choses. Puis, donc, juste petite mise en contexte, Bahia, c'était un être qui avait une certaine sagesse, d'après ce que je comprends. Et à un moment donné, il y avait eu une réflexion où il s'est dit, je me demande si ma sagesse n'est pas telle qu'en fait, je suis peut-être libéré. C'est possible que que j'aie atteint une sagesse totale, on pourrait dire. Et là, il y a... On va dire un ami de Bahia qui s'est rendu compte qu'il pensait ça et qui lui a dit, Bahia, je pense que tu te méprends, je pense pas que ce soit vrai. Et pas juste ça, il y a aussi quelqu'un, je pense, qui pourrait t'aider, dont j'ai entendu parler, qui s'appelle le Bouddha, l'être le bienheureux, l'être éveillé. Et il habite à 700 km, je pense que ça donnait quelque chose comme 700 km dans cette direction-là. Puis tu devrais aller lui parler parce que moi, je ne peux pas t'aider. J'ai juste l'impression que tu n'as pas fini ta job, comme on dirait chez nous. Mais que lui, il pourrait peut-être te donner quelques conseils. Puis Bahia étant vraiment très dévoué là, dans sa quête de sagesse, il s'est dit, ah oui, bon, mais je vais aller parler à cette personne-là. Puis il a marché pendant des kilomètres et des kilomètres pour se rendre jusqu'au Bouddha. Puis là, il est arrivé dans la petite ville où le Bouddha était, puis il a demandé, est-ce qu'il y a le bienheureux est ici, etc. Puis là, ils ont dit, oui, il vient juste de partir pour aller au village, voir s'il y a des gens qui lui donneraient à manger. Et là, il est parti très rapidement pour aller rejoindre le Bouddha. Puis là, il a dit au Bouddha, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner un enseignement? Il paraît que vous pouvez m'aider, j'aimerais ça recevoir des instructions, un enseignement, quelque chose. Et le Bouddha lui dit, écoute, Bahia, c'est pas un super bon moment, là. Moi je mange une fois par jour, là. C'est maintenant. Alors, si tu pouvais attendre juste quelques minutes, je vais faire le tour du village, je vais me ramasser un petit peu de nourriture, puis ensuite on discutera. Puis Bahia lui dit, non, 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 vous comprenez pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il était très conscient de la première caractéristique universelle. Il dit, on sait pas du tout ce qui peut arriver. Je veux, maintenant que je vous ai trouvé, je veux que vous me disiez, il peut vous arriver quelque chose, il peut m'arriver quelque chose. Dites-moi quelque chose, une instruction. Puis le Bouddha dit, s'il te plaît, quand on fait cette tournée-là, on ne touche pas à ça. C'est sacré, c'est pas le moment des enseignements. Alors, je vais te parler, je m'engage à te parler juste après, mais pas maintenant. Puis ça, c'est une version aussi très classique, les trois fois. Alors, la troisième fois qu'on demande un enseignement au Bouddha, d'habitude, il ne dit pas non. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Une fois, je voulais faire une retraite avec des moines de la forêt Thaï. Puis, en fait, je ne pouvais pas faire toute la retraite. Ils avaient vraiment bien dit qu'il faut faire toute la retraite, mais j'étais sur place, à l'autre bout du continent. Et puis, je suis allé les voir, puis j'ai dit, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, faire la retraite? Et je dois partir, je manquerai les dernières 24 heures, mais c'est parce que je m'en vais moi-même enseigner, puis je peux pas, mais ça serait formidable que je puisse être là une semaine avec vous. Puis là, ils me disent, non, malheureusement, on peut pas. Mais moi, j'avais lu aussi les textes bouddhistes. Alors, j'ai dit, ah oui, je comprends très bien. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais, même si c'est pas permis, faire la retraite puis partir 24 heures avant la fin? Puis ils me disent, non, c'est vraiment impossible. Je dis, oui, je comprends vraiment très bien. J'avais le cœur qui me battait. Je dis, je sais pas si je suis capable de me rendre à la troisième fois. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, pour la troisième fois, connaissez-vous ce code? Pour la troisième fois. Puis après que j'ai demandé la troisième fois, ils m'ont dit, OK, reste. Alors, donc, Baïa, pour la troisième fois, dit au Bouddha, s'il vous plaît, donnez-moi un enseignement. Tout ça pour construire le suspense et puis révéler l'enseignement très profond. Et là, l'enseignement que je trouve incroyablement profond, le voici. Alors, il dit très bien, Baïa, voici comment tu dois pratiquer. Dans ce qui est vu, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Dans ce qui est entendu, qu'il n'y ait que ce qui est entendu. Dans ce qui est ressenti, qu'il n'y ait que ce qui est ressenti. Dans ce qui est connu, qu'il n'y ait que ce qui est connu. Voilà comment tu dois pratiquer. Quand pour toi, il n'y aura que ce qui est vu dans ce qui est vu, que ce qui est entendu dans ce qui est entendu, que ce qui est ressenti dans ce qui est ressenti, et que ce qui est connu dans ce qui est connu, alors Baïa, il n'y aura pas de toi dans ces termes. Quand il n'y aura pas de toi dans ces termes, il n'y aura pas de toi là-dedans. Quand il n'y aura pas de toi là-dedans, tu n'es ni ici, ni là-bas, ni entre les deux. Cela, simplement cela, est la fin de la souffrance. Moi, j'ai modifié un peu la traduction. Je n'irai jamais modifier les paroles du Bouddha, mais ça me parle un peu plus quand je me dis à moi-même, quand il n'y aura que la vision au moment de voir, plutôt que ce qui est vu ou ce qui est entendu, plus dans le verbe, le côté dynamique, quand il n'y aura que la vision au moment de voir, que l'ouïe au moment d'entendre, que la perception au moment de percevoir, que la cognition au moment de connaître, alors, Baïa, il n'y aura pas de toi là-dedans. Et cela, simplement cela, est la fin de la souffrance. Alors, simplement cela est la fin de la souffrance. Ça nous montre là, l'importance de cette caractéristique-là, de s'intéresser à ça, au phénomène de l'identification, de l'appropriation. Puis de toutes sortes de façons. Une des façons, c'est en divisant la conscience en six sortes de conscience. La conscience du son. Puis être vraiment attentif au moment d'entendre ou de sentir, ou la conscience d'une pensée. Essayer d'être conscient d'une pensée sans la présence de la pensée. La conscience d'une telle pensée naît avec la pensée elle-même. La conscience du calme dépend du calme, naît avec le calme. Alors souvent, on parle dans le bouddhisme, on parle de la voie du milieu. Puis peut-être je vais essayer de finir avec ça. On parle de la voie du milieu. On dit la voie bouddhiste, c'est la voie médiane entre rechercher les plaisirs à tout prix ou les éviter à tout prix, par exemple. Une façon que j'ai de comprendre la voie du milieu, c'est qu'on ne tombe pas dans l'extrême de l'appropriation, l'identification. Ça serait considéré comme un extrême. Puis on ne tombe pas non plus dans l'extrême, par exemple, de l'irresponsabilité, mais dans la voie du milieu de la sagesse et la pleine conscience. Alors, quand il y a la présence, par exemple, de générosité, il y a la reconnaissance de générosité, de la générosité, que c'est quelque chose qui est beau, bénéfique, par exemple, puis que c'est possible d'agir là-dessus. On ne tombe pas dans l'extrême de l'identification. Je suis généreux, j'ai toujours été généreux. Pourquoi je ne suis pas généreux? Mais je suis généreux, tu sais? Puis on ne tombe pas dans l'extrême aussi de même pas noter ce qui se passe, hein? Alors on devient conscient de ce qui se passe. J'en parlais hier, si monte une pensée cruelle, haineuse, un extrême, ce serait d'être coupable, identifié à ça. Je fabrique des pensées haineuses. Un autre extrême, ce serait de dire, ah, ben, il n'y a rien qui compte, il n'y a rien qui est moi, je pratique le anatta, toute porte ouverte, ou je ne sais pas quoi, comme ça, puis donc, c'est la haine, ça a sa propre vie, etc. Non, il y a une conscience de, ah, il y a la haine, il y a une présence de pensée haineuse, ou d'une énergie haineuse, ou de cette qualité-là dans l'esprit, c'est nuisible pour soi et pour les autres, faisons attention à ça. N'agissons pas là-dessus, tentons d'amoindrir, d'abandonner, de pas nourrir du moins cette qualité-là de l'esprit. C'est une façon que j'ai de comprendre la voie du milieu, puis la non-identification avec ce qui se passe. Je me souviens plus si c'est Jan Amaro, je crois, qui dit quand il y a une notion de soi à laquelle on croit vraiment, là, qui est une identité comme ça vient avec un monde qui oppresse, ça vient avec une expérience de séparation qui est oppressante. Puis essayer de se débarrasser d'un monde qui est oppressant tout en gardant la notion de soi, l'identification, la saisie de cette façon-là, ce serait un peu comme essayer de se débarrasser de son ombre en courant. L'un vient avec l'autre. S'il y a un corps, il va y avoir une ombre à un moment donné. En tout cas, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'était un peu ça l'image. Pour moi, ça montre aussi à quel point l'attention doit être raffinée, puis à quel point on doit investir. Je pense que je me répète un peu d'hier, là, mais ça demande vraiment une certaine qualité d'attention, du temps, un certain angle de vue, hein. Parce que si je suis pris dans mes histoires, je suis vraiment pris dans mes histoires. Ce qu'on me dit, ce qu'on va me dire, ce que je vais faire, comment je vais procéder pour obtenir ça, me débarrasser de ça. Si je suis dans ce niveau-là de réalité, c'est sûr que je ne ferai jamais le ménage là-dedans. Ce n'est pas une possibilité. Pour faire le ménage dans cette méprise-là, il faut être très, très attentif puis voir à quel point il y a cette perversion-là de la perception. Puis la pratique de la pleine conscience, c'est en fait utiliser le phénomène de la perception. On ne peut pas éviter ça, hein. Il y a toujours une interprétation du monde. C'est ce que j'entends un peu par le mot perception. Il y a toujours une perception du monde, ça fait partie de l'expérience humaine. Dans l'expérience humaine, on va percevoir, on va avoir une interprétation des choses. Mais avec l'attention, on peut utiliser la perception pour la corriger, la raffiner, la mettre, l'aligner avec la réalité des choses. Dans le but de dégager le cœur. Le seul intérêt de faire ça, c'est de dégager le cœur pour qu'il y ait beaucoup d'énergie qui soit libérée. Pas d'énergie d'inquiétude, de réactivité, de désespoir, mais un cœur qui est dégagé, qui peut naturellement être aimant, puis naturellement s'engager dans la réalité d'une façon libre. Alors, donc dans votre pratique, qu'elle soit quotidienne ou lors d'une retraite d'un week-end, ou, mais je pense que dans la vie de se diriger vers le travail, dans la vie de couper des carottes, dans ce genre de vie-là, je pense que c'est possible d'amener une attention qui est dharmique. C'est possible de retirer l'obsession, la fascination avec les lunettes du moi, là, du regard du moi, pour changer. C'est un mouvement qui est intentionnel. Il faut avoir l'intention de le faire, puis on va l'oublier régulièrement. Mais c'est la fonction aussi de la pleine conscience, c'est de se rappeler d'elle-même. De se rappeler, ah, il y a peut-être une autre façon de procéder ici. Peut-être une autre façon juste d'être attentif d'une autre façon à la réalité. Ah, puis au moment de déféquer, au moment d'uriner aussi, pourquoi pas? Je le mentionne juste parce que c'est des endroits où on dira, ben, pas là. Mais en fait, quand on regarde vraiment bien les instructions de la pratique, il n'y a pas d'endroit où c'est pas bienvenu d'être attentif. Dans le relationnel, dans la marche, dans la position couchée, dans n'importe quel... Puis donc, la pratique, entre autres, c'est de tout à coup de voir ces opportunités naître. Une sorte de compréhension claire à un moment donné. Une des choses, c'est qu'on voit comme ah, ici aussi, en fait, je peux amener une attention plutôt dharmique qu'une autre version, la plus habituelle. Ah, ici aussi, je peux. Ce qui est beau, c'est que. Le Bouddha semble dire que cette attention-là, dharmique, qu'on apporte, c'est pour nous mener vers un plus grand bien-être, une plus grande paix, une liberté qui peut être inconditionnelle, apparemment. Et là, on pourrait penser que c'est le chemin. Mais quand il dit, quand le boulot est fait, là, quand le cœur a été dégagé, là, puis les mauvaises compréhension du monde ont été déracinées, là, ne peuvent plus, ne sont pas dormantes. Là. On a clarifié les choses une fois pour toutes. La meilleure façon de vivre, même une fois que ça s'est fait, c'est d'avoir cette pleine conscience-là. C'est l'expression naturelle d'un cœur qui est dégagé. Moi, quand j'entends ça, ça me donne le goût. Non, il y a cette qualité-là d'écoute, ça va être l'expression aussi de l'éveil. Alors, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans pour moi qui fait « Ah oui, ok. » Non seulement c'est le chemin, mais c'est aussi l'expression. Il dit, le Bouddha, je pense qu'il dit, c'est la meilleure façon de vivre. Tu sais. It's a, something like a good abiding or pleasant abiding even. C'est la meilleure stratégie pour rencontrer la réalité, d'être attentif. Ok. Alors, ce que je propose... C'est une marche méditative, une courte marche méditative, peut-être de 20 ou 25 minutes. Puis ensuite, on pourrait revenir, puis peut-être faire un petit exercice ensemble, une dernière courte méditation. Et...